Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je disais à l'instant, salut Irène, je disais à l'instant que ici on a des applaudissements dans la rue à cette heure-là.
Ouais, pareil, moi aussi.
Ah, ici. Salut Anna.
Salut.
Hola, Frédéric.
Oh là, ça fait du bien de voir toutes ces têtes qu'on n'a pas vues depuis longtemps.
Est-ce que tu pourrais mettre l'adresse du pad dans la conversation, Frédéric?
Alors, je l'avais mis, je le remets tout de suite. C'est là.
Voilà. Salut, Fabienne.
Salut. Je trouvais pas le son, en fait.
Salut,
Bonjour tout
Fabienne.
le monde. Oh. Uy, chiquillo, ahorita va a tener una reunión.
Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde. Alors bonsoir à tous et bonjour à ceux qui sont décalés comme Claudia qui est au Mexique. Alors je vais prendre juste quelques minutes pour vous rappeler pour ceux qui ont déjà vécu l'expérience et pour ceux qui ne l'ont pas vécu, je vais dire juste les quelques règles de fonctionnement de l'appel en commun et comme ça on peut démarrer la discussion. Donc l'appel en commun, c'est un appel qu'on fait chaque mois. En principe, le troisième mardi du mois, qui dure 1 heure et qui est accompagné donc d'un pad qui nous sert à la fois à la prise de notes et puis à l'enrichissement de la conversation. Et l'idée, c'est que on va consacrer l'essentiel de la, on va consacrer l'essentiel de la, du temps qu'on a ensemble à la discussion, au sujet de notre discussion. Et donc, vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous présenter sur le pad. Il y a plein de gens qui demandent à être admis. C'est très bien. Vous pouvez donc vous présenter sur le pad, simplement mettre votre nom ou votre identifiant et des coordonnées de façon à ce qu'on puisse relayer l'information à la suite de la conversation vers vous, notamment le pad qui est nettoyé et puis qui va pouvoir être diffusé après. Et puis ensuite, on va donc aborder directement la discussion et consacrer environ 50 minutes à notre conversation. Et puis, on gardera les 5 ou 10 minutes de la fin pour conclure, voir s'il y a des choses à se dire en termes de conclusion. L'objectif de l'appel en commun, c'est d'avoir une discussion ouverte sur un sujet chaud, sur une chose qui nous intéresse dans le milieu des communs, dans le mouvement des communs. Ce n'est pas nécessairement de réaliser un objectif particulier. On ne traite pas d'un projet ou d'un projet en particulier. On peut répondre à des gens qui sont porteurs d'un projet, qui viennent le présenter ou avoir une conversation plus générale. Peu importe. L'idée, c'est vraiment de passer 1 heure, de consacrer cette heure-là et de permettre ensuite, parce que on a le pad avec la prise de notes et on a un enregistrement audio qui sera mis en ligne après, on permettra aussi aux gens qui n'ont pas participé à la rencontre de la retrouver et éventuellement de l'enrichir sur le pad ou à la suite de la conversation via les différentes listes des communs. Donc, voilà le fonctionnement général. L'idée, c'est que donc on ferme les micros quand on n'est pas en train de parler et puis on demande la parole à travers le chat de Zoom. Et puis, dans la mesure du possible, on prend des notes. Là, on va faire une traduction du français vers l'espagnol, puisqu'on a Claudia qui est au Mexique et qui, elle, ne parle pas français. Et puis, quand elle parlera, on traduira vers le français de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Et ça, on le fera sur le pad. Sur le pad, vous verrez qu'il y a, à la suite de la rencontre. OK.
Comme vous voulez.
Ouais, super. Et donc, j'allais dire aussi que vous verrez que à la fin du pad, en dessous de l'endroit où on prend les notes, il y a différents chapitres où on peut rajouter des informations, on peut enrichir la conversation, voire au-delà de la conversation, s'il y a des choses qu'on a envie de partager, il ne faut pas hésiter à le faire, il faut utiliser ces espaces-là de manière très libre. On n'est pas, il n'y a pas de grosses contraintes avec cet outil. Voilà pour la présentation de l'appel en commun. Et le sujet qu'on a choisi aujourd'hui avec Yves d'aborder, bon, on ne va pas revenir, il n'y a pas besoin d'introduire la crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ça nous a paru intéressant, après avoir fait le mois dernier, pour ceux qui étaient avec nous, ou si vous avez eu l'occasion de le voir, on avait fait une rencontre avec les gens de l'Asilo à Naples, qui nous avait un peu raconté comment s'était préparé et mis en place le confinement en Italie, comment les choses se vivaient là-bas. On avait eu une conversation super intéressante là-dessus. Là, on s'est dit que c'était intéressant d'aborder ce sujet. Qu'est-ce que pourrait être une santé publique en commun? Comment est-ce qu'on pourrait aborder ça? Donc on va ouvrir la conversation de manière très libre là-dessus, et si vous allez sur le pad, vous allez voir que moi j'ai simplement collecté tous les retours que j'ai pu avoir des uns ou des autres à travers l'email appel@biencommun.org. cet email n'est pas une liste de discussion, donc je n'ai pas rediffusé toutes ces informations vers tout le monde, parce que je ne veux pas que ça devienne une nouvelle liste d'informations supplémentaires à celles qui existent déjà. Mais toutes les informations ont été collectées, elles ont été mises là comme des ressources à la discussion d'aujourd'hui, et on pourra voir comment les choses se passent. Il y a d'autres choses nouvelles, puisque moi je viens d'avoir par exemple Gaëlle Cricorian au téléphone qui me disait qu'elle ne pouvait pas nous rejoindre ce soir, mais qu'elle était aussi en train de travailler sur des questions de production et d'accès aux médicaments aujourd'hui, enfin, du fait des ruptures de stock. Alors, quelque chose qui était sur lequel elle travaillait déjà avant la crise du Covid-19, mais qui est devenu de plus en plus important. Et donc, elle s'excuse de ne pas être là ce soir, mais peut-être que si. elle est en train de nous rejoindre. Si j'arrive.
Ton micro est désactivé.
Frédéric, ouais, tu as coupé ton micro.
Ah, j'ai coupé mon micro, excusez-moi. Donc, je disais que le deuxième point d'introduction que je voulais faire pour ce soir, c'était que ces derniers mois, on a travaillé sur un cahier qui s'appelle, qui est un site internet dont l'URL c'est politiquedescommuns.cc. Et on a travaillé sur l'idée de propositions politiques pour les communs dans le contexte municipal, et qu'on se disait que peut-être que ça pouvait être une piste intéressante d'aller dans cette direction-là autour du sujet de la santé publique en commun aujourd'hui. Ça n'est qu'une piste, on n'a pas du tout travaillé le sujet de manière approfondie aujourd'hui, mais ça nous paraissait quelque chose de peut-être intéressant. Donc, on n'est pas en train de travailler spécifiquement dans cette direction-là, mais ça peut être quelque chose qui est dans le paysage, donc je le mets sur la table un petit peu dès le départ. Voilà en matière d'introduction. Moi, je ne veux pas prendre beaucoup plus de temps de parole parce qu'on est quand même nombreux. Donc, je vous propose qu'on ouvre la conversation à partir d'un partage d'expérience, d'un partage de ressentis, de ce que vous avez envie de mettre sur la table maintenant pour que ça soit le plus riche et le plus libre possible. Essayons de prendre des temps de parole relativement brefs pour que les gens puissent, que tout le monde, tous ceux qui veulent en tout cas, puissent prendre la parole. Voilà. Merci à tous d'être là. Et merci à ceux qui viennent d'arriver, de leur arrivée. Je continue d'admettre des gens. Et j'en ai fini en matière d'introduction. Alors, est-ce qu'une personne... Voilà, Michel.
Oui, juste un petit mot sur... moi, je participe à un groupe de travail qui s'appelle la COP des communs, qui développe une approche sur les communs comme services de proximité. Donc, l'idée est de regarder là où des solutions à la base de communs peuvent rendre des services qui ont été soit abandonnés par les collectivités ou qui ne sont pas rendus. Dans les services qui ne sont pas rendus, il y a par exemple la question des outils numériques avec les chatons, hein. Je connais pas de ville qui offre des outils numériques à ses habitants. Et on avait donc la dernière séance, on a vu une expérience autour d'un commun de santé publique. Donc je pourrais vous donner un peu les liens sur cette expérience-là où, je dirais, un groupe de personnes essaye de développer un service en direction des personnes très âgées qui sont, qu'on dit, en GIR 4 et 5, hein, qui ont déjà de quelques difficultés. Donc, voilà un exemple, hein, de, je dirais, de commun relatif à la santé qui peut exister, là, sur l'auto-organisation des gens pour accompagner des personnes très âgées.
David.
Donc moi, je voulais témoigner du coup d'une série d'échanges qui ont eu lieu dans différents espaces, notamment le premier espace sur le Viral Open Space, qui a été une initiative le 30 mars dernier, qui s'est organisée un peu en urgence et dans lequel il y a eu une plénière sur les questions de santé. C'était beaucoup des gens du Canada et puis de France, mais il y avait aussi également d'autres pays présents. Et notamment, dans cette plénière, on a pas mal parlé de la question de la charte d'Ottawa, qui est une charte élaborée en 1986, sur la promotion de la santé, particulièrement sur la santé communautaire et l'importance de la question de la santé dans les milieux de vie à l'échelle locale. Et du coup de l'importance des villes. Du coup, depuis, j'ai eu d'autres échanges dans d'autres espaces sur ces questions-là, notamment avec l'archipel citoyen où sont les jours heureux, mais également au sein des réseaux municipalistes, puisque les questions de santé ne sont pas forcément des questions qui ont été beaucoup jusqu'à maintenant abordées par les réseaux municipalistes, mais il y a quand même dans l'histoire des projets intéressants qui ont émergé, notamment sur les villes santé, et donc on essaye de creuser là-dessus. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour travailler, affiner cette question de la santé à l'échelle municipale, je ne sais pas si c'est en lien avec les communs, mais ben, je pense oui, mais c'est à travailler en tout cas ensemble, et j'avance là-dessus un peu.
Fred.
Oui, Irène, vas-y.
Ouais. Comment on prend la parole déjà? Juste en.
Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Soit tu agites la main, tu as une petite icône en bas à gauche de ta fenêtre peut-être qui te permet de le faire.
Ouais,
soit tu peux le faire sur le chat.
Ah, ok.
En demandant la parole sur le chat.
Ouais, ok. Alors, juste une précision technique. Ouais. Non, je voulais juste partager avec vous une ressource que j'ai trouvée récemment et que je trouve très inspirante, où il parle effectivement de ce lien entre commun et santé. Et c'est un groupe de chercheurs et activistes. De ce que j'ai compris, un peu au niveau européen, mais il y a une Italienne en particulier qui gère ça. Et ça s'appelle Pirate Care, donc le care pirate, on va dire. Je vais, juste pour info, après je vais l'ajouter, c'est peut-être plus facile si je l'ajoute là tout de suite dans le chat. Et eux, vraiment, ils partagent, je ne sais pas si vous le verrez sur lui, ils partagent toutes des infos autour de la notion, pas tant de santé, mais plus de care. Et là, avec le COVID-19, ils ont développé toute une section consacrée à quoi faire, partage d'expériences autour de comment augmenter la courbe du soin, donc du care socialement, socialement interprété, donc pas juste d'un point de vue médical. Et du coup, ils ont vraiment un point de vue, selon moi, très, très inspirant, dans le sens où il y a vraiment cette idée de un peu qui résonne avec la question de la santé communautaire aussi, de la notion de soins social, et donc et après comment ça s'est traduit aussi ça dans la prise en compte de la situation spécifique qu'on est en train de vivre nous maintenant avec avec cette pandémie. Et je pense que même pour le pour les politiques de communs et toute cette démarche, c'est quelque chose à aller regarder parce qu'il y a plein de ressources. Voilà. Et sinon, aussi une autre chose dont je ne suis pas experte, mais il me semble que sans doute ça pourrait être intéressant aussi à au moins à signaler lors de cette conversation, c'est évidemment tout ce qui est en train de se passer dans les Fab Labs partout en Europe et dans le monde. Moi, dans mon travail actuellement, je suis un projet qui s'appelle Distributed Design Market Platform. La question, c'est vraiment la question de changer nos modèles de production via une production locale dans les Fab Labs. Et là, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer avec des outils médicaux là, du coup, qui sont développés de façon libre, enfin partagés de façon libre.
Alors, il y a une demande de parole de la part de Gaëlle, et puis il y a une question de Fabienne sur le chat qui était comment est-ce qu'on définit la santé en fait. Gaëlle, vas-y.
Merci Fred. Je me permets d'intervenir rapidement, d'autant que je ne vais pas pouvoir rester très longtemps, mais je voulais quand même revenir un petit peu. Et je trouve ça toujours problématique de rabattre la santé à des questions de médicaments, mais c'est quand même de ça que je vais parler. Puisque, enfin, moi, c'est un des sujets sur lesquels je travaille depuis beaucoup d'années. Et en ce moment, dans le cadre de mes fonctions avec Médecins Sans Frontières, et donc dans ce cadre-là, mais au-delà même, à travers des mobilisations en Europe ou ailleurs, il y a une réflexion qui date d'avant le Covid, qui se posait la question des pénuries de médicaments, en fait des médicaments essentiels pour lesquels en fait on a des difficultés d'approvisionnement, de la pénicilline, de la morphine, des antibiotiques de base, et en gros parce qu'il s'agit de produits très anciens sur lesquels il n'y a plus de monopole, ça n'intéresse pas trop l'industrie de commercialiser ces choses-là, et donc c'est vraiment des exemples criants de, ben, en fait le marché, ben, ça ne marche pas très bien hein, quand même, et donc en revanche on voit bien qu'on a des outils de santé qui sont quand même pour le coup des vieux produits, mais donc qui ont prouvé leur efficacité et qui ont vraiment une valeur importante dans le domaine de la santé. Et donc, une réflexion émergeait à partir de ces problèmes en Europe, qui existent partout, en Europe, aux États-Unis, en Inde, voilà. Et maintenant, dans le cadre du Covid, encore plus, pour dire bah, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on voit bien que si on part du problème de santé publique, on a des outils dont on a besoin et en fait, auxquels on n'a pas accès. Donc, comment est-ce qu'on peut les considérer comme une ressource essentielle et puis essayer de réfléchir à en organiser la production et la distribution pour répondre aux besoins. Donc, évidemment, ça rencontre fortement des modèles un peu basiques de commun. Et donc, moi, c'est un sujet sur lequel j'essaie de travailler un petit peu en essayant de prendre des contacts en fait, avec des gens qui sont intéressés à bosser là-dessus, parce qu'en s'inscrivant dans des territoires alors qui, en général, sont soit nationales, soit un peu au-delà, européens, régionales, on peut se dire comment est-ce qu'on, et c'est des questions qui sont soulevées en ce moment dans le cadre du Covid, comment est-ce qu'on fait la cartographie des capacités qu'on a à, par exemple, avoir des chimistes qui peuvent produire ces anciens produits, à avoir des capacités industrielles, publiques ou privées qui peuvent produire ces produits. Si on est capable de faire ça, qui on met autour de la table pour gérer la gouvernance de ces produits et ne plus être dans un contexte où celui qui gouverne, c'est celui qui met sur le marché ou qui a des brevets. Mais là, que ce soit dans le cadre d'une démarche de santé publique ou les utilisateurs, praticiens, médecins, patients, industriels et autres, discuteraient ensemble. Donc voilà, moi j'essaie de bosser un peu là-dessus en ce moment au milieu dans un contexte où on est tous complètement très débordés, quoi. Mais voilà, et notamment j'essaie d'identifier des gens, en Europe et aussi bien au-delà, qui seraient intéressés à participer d'une façon ou d'une autre.
Merci Gaëlle, merci pour les infos. Et Fabienne, est-ce que tu veux intervenir sur le sujet que tu proposais sous forme de question?
Je ne sais pas, parce que en fait, là, c'est toujours la même question à laquelle on se heurte, parce qu'effectivement, la question de la santé, elle est hyper large. On la borne comment? Sur quelle, par exemple, cette discussion, comme le soulignait Gaël, d'ailleurs, c'est vrai qu'on a, quand on parle santé, on parle surtout de médecine, on parle surtout de soins, et là on voit combien, à quel point on est accaparé par ces questions-là. Mais on sait aussi que c'est des questions qui sont beaucoup plus en amont et beaucoup plus en aval. Donc en fait, la question que je posais, je n'ai pas la réponse, mais par exemple, pour ce type de discussion qu'on a aujourd'hui, on la délimite comment, ou est-ce que ça a du sens de la délimiter ou pas d'ailleurs? Bon, ça c'était la première question. Une autre question que je me posais, c'était, je ne sais pas si vous partagez tous ce même constat, mais c'est que, en fait, la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui, elle est énormément liée, elle est énormément confrontée à une défaillance totale, ou quasi totale de l'État, me semble. Et notamment, non pas forcément pour expliquer les raisons, enfin, non pas forcément pour dire on en est arrivé là, quelles en sont les causes, parce que ça c'est un autre sujet, mais dans la gestion actuelle de la crise, si je dis ça c'est parce qu'il me semble qu'il y a un lien avec les communs, hein, c'est dans la gestion actuelle de la crise, on a vraiment un problème de, je sais pas si on peut parler d'incompétence, mais en tout cas, il y a un vrai problème de la responsabilité de l'État aujourd'hui, quoi. Et donc, c'est comment se positionnent les communs par rapport à ça, dans une problématique de santé publique. Plutôt des questions. Hein. On a bien l'exemple que j'ai donné là autour de la place des Fab Labs en France, mais je pense que c'est un peu plus au-delà qu'en France. Pour la production de masques, par exemple, elle est super intéressante à voir comment ils se sont mobilisés pour proposer de produire des masques d'une manière collective et en accès complètement ouvert et à créer des partenariats avec la PHP. Et comment l'État a été une fois de plus, au lieu d'être proactif par rapport à une telle démarche, a été d'abord et avant tout un frein. Enfin, moi, c'est ça qui m'interroge beaucoup, hein. En fait. Plus des interrogations. Mais il y a beaucoup à creuser par rapport à ça. Et là, et je trouvais super intéressant ce que tu nous disais, Gaël. C'est pour ça que je t'ai dit. Enfin, super intéressant, effectivement, cette question de médicaments. Tombés dans le domaine public depuis longtemps et qui pourtant sont en pénurie. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là. Comment les communs répondent à ça? Ou est-ce que c'est possible ou pas? Grosse question, c'est est-ce que c'est possible ou pas? C'est énorme, enfin, quand même. Hein, c'est des questions très importantes.
Alors, je passe la parole à Selma.
Alors, je ne vais pas apporter une réponse immédiate à ce qui vient d'être dit, mais je vais témoigner d'une démarche de constitution d'une connaissance en commun en termes de santé au naturel. Nous, on est un groupe de personnes qui avons pas mal cheminé dans la santé au naturel et qui essayons de constituer une expertise collective où on s'en réfère les uns aux autres pour voir les différentes sources qu'on a appris, de connaissances qu'on a réussi à confronter. Il y a des personnes qui font ces recherches en neurosciences, par exemple, avec quelqu'un qui a une thèse en neurosciences. Sinon, on a pas mal de personnes qui ont des parcours où ils ont assez poussé les études, puis basculé dans l'énergétique, la spiritualité, des choses comme ça. Et en fait, notre base commune, c'est qu'on part du principe que ce qui constitue la science, c'est d'abord le témoignage d'une personne. Et un témoignage qui va se valider par une autre, et puis par une autre, et puis par une autre. Donc, on a des temps collectifs où on essaye de confronter tous nos apports pour constituer une connaissance qui soit partagée et qui soit éclairante sur l'impact de, par exemple, on prend un objet sur le corps. Mais ça pourrait être un peu d'autre chose. Et donc, petit à petit, je me suis demandé comment est-ce que cette façon d'appréhender la santé pouvait rejoindre tout ce qui se fait dans les hôpitaux. Quand on regarde, par exemple, à Shanghai ou en Chine, que la sagesse ancestrale des médecines chinoises est intégrée aux démarches de soins de l'hôpital, par exemple en étant de Qigong avec de l'hôpital, enfin avec des traitements plus contemporains. Ce n'est pas du tout des pratiques qu'on a en France. Et donc, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui faisait le lien dans ces pratiques qui, pour moi, sont des organisations. Quand on parle de santé en commun, on parle de communauté aussi. Donc, c'est David, une fois, on discutait de la santé, il me disait il y a les centres de communauté, la santé communautaire, bon, je ne sais plus, je ne savais même pas que ça existait. Mais enfin, finalement, c'est l'idée qu'on intègre la donnée de la croyance dans la santé. Et je pense qu'il y a toute une explication et des liens à faire pour voir comment est-ce qu'on aborde la santé en fonction de ces différentes entrées organisationnelles, les croyances et les politiques, où finalement on va pousser des façons de faire en disant c'est bon pour tout le monde, mais en fait, voilà, je trouve qu'il y a un endroit où ça se discute à cet endroit-là. Et moi, c'est une réflexion qui... C'est quelque chose qui m'interroge. Et quand on parle de regarder quelle politique publique mettre au niveau des communs et de la santé des communs, ben, je pense encore une fois aux organisations en mode archipélique. Où finalement, pourquoi est-ce que dans le domaine de la santé, on va imposer à tout le monde la même chose? Pourquoi est-ce qu'en politique, on accepte qu'il y ait une certaine ouverture et puis dans le domaine de la santé, non? Où ça se nuance. Enfin, voilà. Je trouve qu'à cet endroit-là, il y a de la réflexion à avoir et de la discussion, quelque chose à creuser. Et juste un dernier point. En Suisse, il y a une fondation qui s'est montée, qui cherche à pousser les logiques de la médecine intégrative, c'est-à-dire comment associer ces démarches de santé au naturel avec la recherche contemporaine. Et en Suisse, c'est beaucoup plus développé. Je vais retrouver le lien, je le mettrai dans le pad. Voilà, j'ai fini ma petite.
Merci Selma. Je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole pour l'instant. Donc, dites-moi si je me trompe.
Peut-être juste, je n'ai rien demandé au groupe, mais enfin... ça me semble aller de soi que ça m'intéresse de développer ça. Je ne savais pas trop s'il fallait aller toquer chez des fondations pour dire on peut essayer de commencer à construire en rejoignant d'autres gens plus corporate en termes de traitement de la santé. Je ne sais pas. Voilà. Donc, les personnes qui sentent un intérêt par rapport à ça peuvent me contacter. Et je ne sais pas ce qu'on fera.
Ok, merci Selma. Je rappelle du coup que n'hésitez pas à revenir sur le pad pour y mettre l'indication au moins d'un moyen de vous contacter pour qu'on puisse faire ce genre d'échange et puis à la fin de l'appel en commun, enfin après l'appel en commun, qu'on puisse aussi vous renvoyer les notes et puis l'info. Geneviève, tu as demandé la parole.
Bonjour, c'était par rapport à l'intervention précédente de Fabienne. Je trouve que ce qui est dramatique, c'est l'État n'est pas seulement défaillant, il est nuisible par rapport à la santé publique et à la santé communautaire à plus forte raison. Et ça, je pense qu'il faut arriver à le dire et à l'analyser. Et en particulier, on a mis sur pied au début du siècle, là, autour de 2002, un certain nombre de lois qui devaient garantir la démocratie sanitaire et qui sont de moins en moins bien appliquées, hein, les droits des usagers, des représentants, etc. Et donc, il n'y a pas de place pour les usagers dans le système de soins. Et ça, c'est pour moi un des premiers problèmes. Ensuite, elle voulait savoir comment on définissait la santé. Je pense qu'il faut essayer de ne pas définir la santé. La santé, c'est un peu comme la culture. Les soins, pour moi, c'est une pratique. C'est ce qu'on fait pratiquement pour sortir d'un problème de santé ou comme professionnel de l'hôpital ou de la médecine de ville, des paramédicaux, etc. Mais la santé, c'est en plus, c'est une culture, c'est-à-dire les besoins de santé sont des besoins cultivés. Et un des gros problèmes par rapport à la santé, c'est les inégalités sociales, aussi bien par rapport au logement, par rapport à l'éducation, par rapport aux revenus, etc. Les inégalités sociales se transcrivent en matière de santé. Et moi, c'est sur ça que j'aimerais bien qu'on arrive à bosser un peu. Voilà. Et pour la production de masques, moi, je suis très circonspecte, comme on dit, très interrogative sur ce qui se passe actuellement. sachant qu'il y a toute une série de gens qui sont au chômage, qui pourraient gagner leur vie en fabriquant des masques, comment se fait-il qu'on fasse appel aux bénévolat, encore une fois, pour combler les défaillances de l'État, alors qu'il y a tout plein de professionnels, plus ou moins couturiers, couturières, etc., qu'on pourrait embaucher, hein, puisqu'il y a une défaillance de l'État, c'est à l'État de combler ce manque. Et au lieu de faire appel au bénévolat des gens dans leur cuisine, s'ils ont la chance d'avoir une machine à coudre, on pourrait aussi procurer du travail aux volontaires qui sont capables de le faire. Voilà. Alors pour le reste, la santé au naturel, je n'ai pas grand-chose à dire, même si ça m'intéresse. Voilà.
Merci. Alors, je n'ai plus le chat sous les yeux. Donc, s'il y a des... Alors, Glauber, vas-y.
Non, juste un autre point de réflexion par rapport notamment aux impacts économiques et comment cela doit être intégré dans nos réflexions en matière de santé. Si on prend des cas, par exemple, même comme en France ou au Brésil, où l'idée d'isolement social, elle est même vraiment corollaire au fait d'avoir ou pas des ressources, d'avoir ou pas d'épargne, d'avoir ou pas des moyens, soit de la part de l'État, soit par ses épargnes propres, de rester à la maison, de suivre en confinement. C'est là un impact réel sur la santé, d'un point de vue beaucoup plus large. Quand on prend ce type de cas, on voit qu'en France, par exemple, sont les quartiers, les régions les moins dotées de capital économique qui sont les plus touchées. Par exemple, la Seine-Saint-Denis, c'est un cas épouvantable, ce qui se passe là-bas en ce moment, parce que les gens doivent rester dans la rue. Ou aussi pour des précaires qui habitent dans des appartements de 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, le confinement, elle n'est pas... La santé mentale, elle joue énormément dans ce type de situation. Donc ça aussi, je pense que ce sont des éléments qu'on doit prendre en considération quand on pense en santé d'une forme plutôt globale. Et là-dessus, l'État a un rôle à jouer, entre guillemets, du fait des allocations d'urgence éventuelles qu'on peut donner aux gens, du fait d'un élargissement de l'accès à des biens économiques et ainsi de suite. C'était juste un point avec d'autres expériences pour qu'on prenne en considération.
Ok, merci. Glauber, David, tu as demandé la parole, vas-y.
Je ne sais pas s'il y a d'autres, on est nombreux aussi qui veulent prendre la parole. Moi, c'est juste par rapport à la question de l'État. Les questions de santé en France ont d'abord émergé des territoires. Il y a plus d'un siècle de ça. Les politiques publiques de l'État, c'est l'après-guerre sur les questions de santé. Il n'y a pas eu de véritable prise en compte de politique publique de la santé avant le milieu du XXe siècle. Et donc, aujourd'hui, si on fait le constat que l'État est défaillant, voire l'État est nuisible, c'est peut-être pas envers l'État qu'il faut se tourner aujourd'hui pour répondre à nos problèmes immédiats de santé, mais auprès des territoires, et à inventer ensemble des politiques de santé locales, territoires. Évidemment, il y a un problème... Où sont les ressources pour pouvoir le faire, mais il me semble qu'on doit vraiment se tourner vers les villes, les villes et les territoires plus largement, pour avoir des moyens pour des politiques de santé qui nous permettent de faire face à la crise, mais à plus long terme, aux enjeux de santé.
Peut-être qu'à ce sujet-là en particulier, mais peut-être aussi plus largement, Monica ou Raquel ou Claudia, vous pourriez, ou même Anna, vous pourriez nous partager un peu les expériences ou la situation que vous vivez dans vos pays respectifs, en Mexique, en Espagne, ou Anna Sofia, tu es à Paris en ce moment, toi ? Est-ce que l'une d'entre vous...
Moi, en fait, moi, je me présente, je suis nicaraguayenne et ma mère, en fait, elle est médecin. Et, Et le problème, c'est que Nicaragua a vécu une crise en 2018, une crise politique assez forte. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une confiance sur le rôle de l'État vers la crise. Sauf que l'information que j'ai, c'est justement parce que ma maman, elle est dedans, une structure de gouvernement assez forte. Et pourtant, la préparation qu'ils ont mis en place, c'est au moins pour les hôpitaux un peu plus préparé. C'était une préparation à l'avance dès que le virus est arrivé aux pays voisins. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une comptabilité des cas où on peut faire confiance parce qu'il y a beaucoup de pneumonies atypiques, beaucoup de mortes de pneumonies atypiques et pas vraiment de COVID, même s'il y en a la manière de faire des tampons. Et par l'autre côté, il y a un suivi, ça c'était bien fait, il y a un suivi de toutes les personnes qui rentrent de l'étranger. Il y a un confinement obligatoire de chaque personne qui rentre depuis qu'ils sont arrivés de l'aéroport. Et il y a un suivi de 15 jours journalier par téléphone. C'est sur les cas des mesures de COVID, c'est ça que l'information que j'ai de mon pays.
Je ne sais pas si Claudia ou Raquel veut parler à la situation ici en Espagne. Je ne suis pas une experte sur la santé publique. Et ce que je sais, c'est le peu que j'ai lu et que je vous parle. Et je crois que par rapport à ce qu'on disait avant, ici, il y a la dichotomie aussi entre l'État et les régions et les municipalités, ce que chacun peut faire et ce que chacun a opté pour faire. Il y a eu des hôpitaux qui ont été mis en place dans les villes. Il y a eu un déploiement. L'armée a été déployée pour mettre des hôpitaux, ce que a été discuté, questionné. Et aussi, ce qui est arrivé ici, c'est que le service de santé publique a été démantelé, on dit, a disparu presque avant que tout ça se passe. Et maintenant, on n'a pas suffisamment de lits et aussi des services de critiques, des malades critiques. On n'a pas les ressources pour donner le service que c'est nécessaire. C'est pour ça que tout le monde est confiné, pour essayer de ne pas avoir plus de morts. Il y a eu une mortalité très grande entre les personnes âgées qui sont dans des pensions, hôpitaux pour des gens âgés. Il y a un nom, je ne sais pas.
Oui, il y a des retraites. Oui, des maisons de retraite.
Des maisons de retraite. C'est la moitié des personnes qui sont mortes. Je crois que ce sont des gens qui étaient dans des maisons de retraite parce que les maisons de retraite, j'ai appris, ne sont pas médicalisées. On n'a que des services sociaux dans les maisons de retraite et on n'avait pas de docteurs. Donc les personnes qui travaillent là, ont donné un suivi tous les protocoles, mais en suivant les protocoles, c'était pas suffisant pour sauver les citoyens. Ici, il y a beaucoup d'initiatives citoyennes pour produire des masques. Mais en même temps, il y a des masques qui sont répartis dans les pharmacies, c'est l'État qui paye pour un masque pour personne, un masque qui est utilisable qu'une fois. C'est, pour moi, c'est fou, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il se passe. Si on peut produire un masque à la maison et on peut la laver avec du savon et la réutiliser, je ne comprends pas pourquoi l'État dit à les gens qu'il faut aller chercher un masque qu'on ne peut l'utiliser qu'une fois. Et ici aussi, il y a eu les Fab Labs et les citoyennes qui sont producteurs makers, qui se sont organisés. Et ils se sont organisés, je n'ai pas lu beaucoup sur ça, mais je crois qu'ils se sont organisés avec Mensakas, qui sont des répartiteurs de motorisés, mais c'est une coopérative. Ça, c'est au niveau de Barcelone. Et ils ont été capables de faire cette distribution des outils qui étaient nécessaires. Il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, municipales, qui sont en train de marcher. Et ça, c'est très intéressant. Il y a beaucoup plus de choses qu'on peut raconter, je suppose, d'ici.
Raquel, est-ce que tu veux compléter?
Je suis un peu fatiguée. Et je viens de faire un cours online. Je suis un peu pour l'université. Alors, oui, je crois le ça que Monique l'a raconté, c'est assez complet. Et moi, j'ai beaucoup d'informations sur le système sanitaire espagnol parce que c'est la théorie, c'est un de mes métiers. Mais je crois que ça ne vaut pas la peine de raconter et tout parce que comme quelques personnes, ils viennent de dire que l'État est fou et alors c'est beaucoup plus, c'est un problème beaucoup plus intégral que ça va tout changer maintenant, je crois, ça... La vision de santé, la vision de l'État et tout. Je voulais seulement de ça que je vous les dernières semaines et aussi quand je fais une observation un peu plus ample et wide de la situation en Espagne, c'est que et j'observe aussi beaucoup de projets que je connais, où je travaille avec dans le monde rural. Et je crois que c'est... Et moi, je suis un prof de droit public. Si les autres profs, ils m'entendent. Et que les systèmes... on a tous laissé un poids, trop... Tous les poids sur l'État. Et c'est l'État qui a fait ça, c'est la politique, c'est la culture sociale. Et on était tous à faire ça et maintenant on attend que l'État fait tout pour nous. Et aussi les systèmes familiaux et les systèmes ruraux, urbains et tout a beaucoup changé. Et pour donner un exemple, dans les mondes rural et naturel, et même pas les plus âgés, ils ne sont pas en train de mourir. Pas du tout. Je crois que ça vaut la peine de réfléchir à ça, parce que dans les mondes ruraux, il n'y a pas de mortes. Il y a quelques. Il n'y a pas de mortes. C'est pas mal comme réflexion. Et en plus, je vois aussi dans les groupes de support, appui mutuo qu'on a fait et tout, et je participe, qu'on est tous très concentrés dans la santé comme une solution a posteriori, après, et on pense jamais à la prévention et à la communauté. Alors, dans un groupe, j'ai commencé à envoyer des choses, de sympa et pas des blagues. Pas des blagues, des choses comme ça, mais des jeux et tout pour les voisins. Et il me répondait comme, mais ici, c'est de l'urgence. Seulement pour s'il y a quelqu'un qui est très mal, va mourir. Et alors, vous avez déjà aussi parlé de... Mais c'est quoi la santé? La santé, c'est aussi d'être tranquille, d'être bien, hein, de partager des ressources et des questions plus communautaires et plus de bien-être d'une façon avec naturalité, non? Et ça que je vois, c'est que dans les réseaux qui se sont créés, se sont beaucoup concentrés dans comment faire arriver les personnes à l'hôpital, mais ils ne pensent pas à soi-même. Ils pensent, moi, je suis bien, ça va. Et alors, je crois, pour finir, même si je fais l'analyse du système social public tout le temps, je crois que c'est aussi une question très sociale et culturelle. Pas seulement de l'État, mais de toutes les personnes et toutes les communautés qui peut-être un peu fait penser à projet de pour apprendre, pour créer des dynamiques, non, qui nous portent à avoir une autre approche sur la question comprend pour santé et surtout sur la santé communautaire. C'est quoi ça? Et comment est-ce qu'on le fait au début? Et en plus, je vous rappelle, je dis avant, je suis vraiment dans la campagne, c'est une autre planète. Il n'y a presque pas de coronavirus, au moins ici en Espagne. C'est incroyable. Et autre... Ça n'a rien à voir avec eux. Oui, ils font les confinements et tout, mais c'est la grosse différence entre l'urbain et le rural. Et tout.
Merci Raquel. Gaëlle, tu peux prendre la parole. Et puis Claudia, peut-être si tu veux intervenir après.
Si. Gracias, Frédéric.
Je voulais juste poser une question, c'est à nouveau un peu pragmatique, mais pour les gens qui ont parlé des Fab Labs, en fait, parce que là, je mets vraiment ma casquette MSF. Un des problèmes, comme vous pouvez imaginer, c'est que là, l'épidémie, elle est installée sur l'Europe et les États-Unis, mais beaucoup de gens s'inquiètent de ce qui va se passer dans beaucoup de pays dans les mois à venir. Et évidemment, les difficultés d'approvisionnement, enfin d'accès qu'on peut avoir au Nord en diagnostic, en masque, en matériel de protection, en médicaments, etc., ça va être juste encore pire dans les pays les plus pauvres. Ou les pays moins riches, enfin bon. Et alors, il y a beaucoup de discussions chez les activistes ou dans les associations, les organisations humanitaires. Et c'est vrai, ça résonne un peu avec la discussion qu'on a là. C'est-à-dire que beaucoup de gens, et moi des fois ça me surprend, ont comme réflexe d'envisager que ce soit... qu'il faut demander à l'OMS, que les Nations Unies, que je sais pas quoi, qu'il faut de la coordination internationale, qu'il faut mettre en place des mécanismes de solidarité. Et personnellement, je pense que le multilatéralisme, c'est une chose importante, intéressante et qu'il faudrait préserver. Mais il me semble aussi que ce monde-là, il existe presque plus. Et il me semble aussi que quand on est dans des situations où les États-Unis volent des masques aux Européens, les gens qui habitent au Mali, franchement, ils vont pas compter sur. Enfin, faut pas qu'ils comptent sur nous pour les aider. Puis de toute façon, on n'a pas forcément envie d'être dans une où ils devraient compter sur je sais pas qui pour les aider. Donc, il y a d'un côté, il y a des initiatives qui se développent dans beaucoup de pays, enfin dans des pays dans le sud, pour dire est-ce qu'on peut développer des vaccins, est-ce qu'on peut mettre en place, développer des tests, est-ce qu'on peut produire des masques, est-ce que voilà ces choses-là. à des échelles étatiques. Mais du coup, moi, ça m'intéresse aussi d'entendre ce que... Enfin, et moi, ça m'intéresse ces choses-là parce que quand bien même... Enfin, voilà, c'est des échelles étatiques, nationales. Ça peut parler aussi d'organisation politique régionale, de création de solidarité régionale, ce qu'on n'a pas tellement su faire en Europe, par exemple. Et ça me paraît intéressant. Mais du coup, pragmatiquement, la situation, c'est aussi des gens qui aujourd'hui sont dans la merde, n'ont accès à rien, y compris dans les missions de MSF. Or, MSF, c'est une organisation internationale ultra riche par rapport à plein d'autres groupes, quoi. Et même pour un groupe comme MSF, aujourd'hui, bah, en fait, on gère la pénurie. Donc, ça m'intéresse de savoir si les gens peuvent transmettre des informations un peu sur les pratiques de Fab Lab et de production à petite échelle, très localisée, pour aussi peut-être pouvoir échanger un petit peu ces savoirs, ces expériences avec d'autres gens que ça peut intéresser dans plein d'autres pays.
Ok. Claudia?
Si. Ok. Gracias. Bueno, pues en México, bueno, no se deja todo al Estado.
Excuse-moi, Claudia. Si vous voulez suivre ce que va dire Claudia en espagnol maintenant, il faut se reporter sur le pad.
Ou peut-être que Ana Sofía peut traduire au français.
Ana Sofía, est-ce que tu peux?
Oui, oui, je suis là.
Ok, allons-y alors.
Gracias. Bueno, pues en México no se deja todo al Estado. De antemano se sabe que el sistema público no funciona y mucha gente, muchísima gente no está yendo a los hospitales. Muchos pues mueren fuera de los hospitales, pero el número en México oficial es aún bajo. Está como alrededor de 700 muertos y alrededor de 2.000, 3.000 personas infectadas. Pero no se sabe realmente mucho, ¿no? O sea, no se tiene un control tan fuerte en el sistema de salud. Y aunque sí puede haber una red como de hospitales públicos amplia y están como bastante saturados, pues hay mucha precariedad, hay falta de material, se brinda la atención, pero pues también los doctores se ponen en riesgo y no predomina como el sistema privado, ¿no? No toda la gente tiene seguro y no toda la gente tiene seguros privados, y pues mucha gente se sigue atendiendo con métodos tradicionales. Existe fuera de las ciudades, sobre todo, pues una cultura diferente del cuidado y no solo hospitalario. Y hay aún como mucha, pues, medicina tradicional y alternativa. La cuestión de nutrición me parece que es fundamental y poco se está abordando en el tema del cuidado y en lo preventivo, pero México tiene una obesidad y una diabetes, tanto infantil como de adultos, de las más altas del mundo, ¿no? Entonces, pues eso es algo muy grave. Y bueno, pero tampoco se ha visto casos en niños, ¿no? No está realmente el virus afectando a niños, aun cuando se tiene como estos datos de la diabetes. Es el país con mayor obesidad infantil, ¿no? Y es es un país de los más altos en términos de diabetes también infantil. Y no se están viendo casos,
Claudia,
como de niños.
Te detengo un segundo para poder hacer la traducción.
Sí, perdón.
No, disculpa. Ok, bon, alors, Claudia, elle vient de nous raconter un peu la situation au Mexique. Elle a dit que même si c'est la même histoire, et il n'y a pas en confiance sur la quantité de cas rapportés. Normalement, c'est 700 cas qui sont 700 mortes pour COVID-19, et il y a 3000 personnes infectées, selon les chiffres du gouvernement. Mais la situation de l'hôpital public, c'est à peu près la même, et tous les hôpitaux sont saturés. Il y a pénurie des provisionnements de tout ce qu'il faut pour donner un bon service. Et aussi, il y a un problème avec la manière dont les personnels soignants est traité, parce qu'ils ont déjà beaucoup de boulot. et ils ont mis un risque justement parce qu'il n'y a pas cet approvisionnement. En plus, la situation au Mexique, il n'y a pas un service des assurances, même pas des assurances privées, elles ne sont pas largement fournies. Et pourtant, il faut toujours y aller de manière large dans les hôpitaux publics. Mais aussi un truc que... Mais normalement, les personnes utilisent des mesures de soins traditionnelles. Et la manière dont eux se médiquent et prennent soin des personnes malades, normalement, c'est de manière traditionnelle, de manière naturelle. Ça, c'est justement pour le type de pratiques. Mais un sujet très important qu'on n'a pas abordé, c'est justement la nutrition. Et dans un pays comme le Mexique, où ils sont un des taux de diabète les plus élevés au monde, même pour des personnes adultes comme des enfants, et le pays qui est les taux d'obésité des enfants les plus élevés du monde, c'est impératif de parler aussi de nutrition quand on parle de soins et de santé. Puedes seguir, Claudia, si quieres.
Gracias, Ana Sofía. Y por último, la cuestión de migrantes, tanto en el norte como en el sur, es muy fuerte porque hay muchos migrantes varados, detenidos, con nada de sistema sanitario, sin agua, sin ningún servicio de salud pública. Y eso es pues un foco rojo muy, muy fuerte que no se está atendiendo bien, ¿no? Se han regresado ya muchos niños migrantes de Estados Unidos, que hay una detención terrible de niños migrantes en la frontera con Estados Unidos, pero no hay capacidad para como recibir tanto migrantes mexicanos que vienen de Estados Unidos que los están regresando, como tampoco los migrantes de Centroamérica que se están varando en México, y no hay esa capacidad para darles salud sanitaria, bueno, para darles salubridad y servicios de salud.
Le dernier point, c'est justement la situation des migrants. Mexique, il y a une situation particulière des migrants au nord et au sud. Au nord, c'est normalement celle qu'on connaît le plus. Ce sont les migrants mexicains qui vont aux États-Unis, mais aussi, comme vient de mentionner, la migration au sud de Mexique, c'est important parce qu'ils sont tous les pays de l'Amérique centrale et qui essayent de faire un passage vers le Mexique pour arriver normalement aux États-Unis. Et dans les deux frontières, nord et sud, il y a vraiment un problème de provisionnement de services de santé, sanitaires. Il n'y a pas de l'eau parfois. Et dans le nord en particulier, il y a un cas problématique avec tous les enfants qui sont enfermés aux États-Unis. Et aussi sans les conditions de santé ou de salubrité nécessaires. Et ça devient un focus d'infection, mais aussi problématique pour la situation en soi. Et con eso terminas, Claudia, ou quieres seguir?
Sí, no, gracias. Sí, gracias. Okay.
Gracias. C'est ça.
Merci, Claudia. Alors, on arrive à la fin de l'heure qu'on s'est donnée tout à l'heure. Alors, comme on a un peu débordé pour lancer l'appel et se mettre en route, on peut déborder de quelques minutes. Mais la règle du jeu, c'est qu'on ne se donne pas plus qu'une heure pour respecter les temps de chacun et la possibilité pour chacun de bien vivre ce moment, mais pas de l'étendre outre mesure. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui voudraient réintervenir ou qui voudraient compléter ce qui a été dit ou ajouter quelque chose maintenant? Geneviève, Raquel, Geneviève?
Kominski. Qui? Moi?
Alors, oui, Raquel, vas-y, Raquel.
Ah, ok. Et je voulais seulement, comme on vient de parler des migrations, j'oubliais avant, et il y a pas mal de situations avec les immigrés, mais je voulais commenter seulement l'autre jour, on a parlé un peu sur les mineurs, et les mineurs ici, bon, ils ont des problèmes, mais mais rien n'est changé. Ils sont dans les centres, ceux qui sont reconnus comme mineurs. Il y avait une proposition pour les jeunes 18 à 21 et les jeunes migrés pour lui donner une autorisation de travail seulement pour le temps de prendre de travailler dans l'agriculture, seulement pour cette période. Et il y a eu la pression des ONG, alors ils ont décidé finalement que ces jeunes migrants qui vont travailler dans l'agriculture, ils vont avoir une autorisation, des papiers pour un an. C'est déjà quelque chose. Mais bon, c'est un chaos tout le temps et on n'a pas trop réussi. Et après, dernière phrase, et ces migrants qui sont un peu, ils sont plutôt, je travaille avec des organisations, avec des personnes qui font le travail domestique, je ne sais pas comment on dit. Le
travail à domicile.
Le travail à domicile. Mais ça qui a un peu la stabilité du papier, de l'économie, minime stabilité. Et même si elle, en général, femme, n'ont même pas de stabilité, elles sont très préoccupées pour ce pays d'origine. Elles s'en foutent vraiment de sa situation. Elles sont obsédées pour la situation de ses enfants dans les pays d'origine. Et bon, c'est familial, surtout les enfants et les plus âgés, ses parents et ses enfants qui sont dans les pays d'origine. Pour eux, c'est ils ont un vrai stress et dépression de ce côté parce qu'ils considèrent qu'ici, même si c'est le désastre, il y a quelques accès à la santé, que rien va lui arriver. Mais ils sont très préoccupés pour la famille. Très. Et c'est tout. Merci, Frédéric.
Geneviève?
Oui, comme j'ai loupé le début de la réunion, je m'en excuse. Je voulais savoir quelle était la suite à donner ou l'objectif ou le... Qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble ou pas dans ce genre de réunion? Puisque c'est la première fois que je viens et que je suis arrivée en retard.
Alors, ça tombe bien parce que du coup, je vais un peu conclure avec ça.
Oui.
Avant ça, juste un petit mot. Il y a pas mal d'informations qui circulent sur le chat. N'hésitez pas à aller reporter sur le pad qui a servi de prise de notes plutôt en espagnol et dans laquelle il y a pas mal d'informations, et dans les jours qui viennent, demain ou dans les jours qui viennent, on fera un peu un lissage de ce pad, et donc si vous avez des informations à y porter, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Je remets le lien vers le pad ici, comme ça vous pouvez le faire. J'ai dû me tromper dans le lien vers le pad, mais on va voir ce qui est trouvable. Voilà. Hop.
Oui, ça marche.
Ça marche, ouais. Ok, parfait. Et donc, s'il n'y a pas d'autres demandes de parole là maintenant, donc d'une certaine manière, ça va répondre à ta question, Geneviève. L'idée des appels en commun, ce sont des appels où on se rencontre, on aborde un sujet de discussion sans nécessairement avoir un objectif de production immédiate avec cette rencontre-là. Là, en l'occurrence, pour cette rencontre, ce qu'on s'était proposé, ce à quoi on a réfléchi en introduisant la rencontre, l'appel en commun a lieu régulièrement une fois par mois, chaque troisième mardi du mois. Chaque troisième mardi du mois, il y a quelqu'un qui va prendre le téléphone chez moi. Voilà, ça va se faire. Excusez-moi. Et donc, on fait cet appel en commun une fois par mois, chaque troisième mardi du mois de 20h à 21h, heure française. Il y a des gens souvent du Québec aussi qui y participent. C'est en principe un appel francophone, mais il a eu tendance à s'élargir ces derniers temps et c'est pas plus mal. Donc l'objectif n'est pas nécessairement d'avoir une production directe. Alors pour cette fois-ci, comme je disais tout à l'heure en introduction, c'est que en fait on s'est dit que c'était intéressant de réfléchir à cette idée de santé publique en commun, avec en arrière-pensée le travail qu'on a fait autour du cahier ou du cahier de propositions politiques pour les communs dans le contexte municipal, en se disant que là il y avait une structure de cahier qui pouvait être intéressante à se donner comme horizon. Alors on n'a pas donné cet objectif là à la réunion, il ne s'agissait pas là d'une réunion de préparation de cette démarche là, mais plutôt de se dire que on pouvait éventuellement s'orienter vers ça. Et je pense que les échanges qui ont eu lieu là, ils montrent à la fois qu'il y a tout un ensemble d'initiatives, que ce soit les Fab Labs, que ce soit la santé communautaire, autour des initiatives de solidarité ou de partage familial et communautaire, par exemple. Et puis, il y a des réflexions au niveau des politiques, au niveau de la gouvernance du médicament, ce que disait Gaëlle par exemple, sur des problématiques de santé. Quels sont les acteurs qui jouent un rôle et quel rôle ils jouent, et comment est-ce qu'on peut jouer un rôle en tant que commoner ou mouvement des communs. C'est des choses qui seraient intéressantes à creuser. Donc, du côté de Roaming the Commons, ce qui est l'organisation qui invite là aujourd'hui, on va continuer à y réfléchir, et donc si c'est une chose qui vous intéresse, on va continuer à faire circuler de l'information là-dessus et on verra comment est-ce qu'on peut ou pas développer cette idée, en sachant que le principe de ces cahiers, l'expérience a montré que ce qui était intéressant, c'était pas d'avoir des documents de recherche scientifique, mais vraiment de faire la médiation d'une certaine façon entre la recherche, les initiatives, les expériences et leur traduction en termes politiques, soit en termes d'outils politiques, soit en termes, je dirais, de vision ou de perspective politique sur des domaines donnés, comme par exemple l'alimentation, ce qui a été nommé tout à l'heure, comme autour de l'alimentation, mais je pense aussi autour des questions d'autres questions qui pourraient être autour de la naissance, autour de la mort, autour du grand âge, etc., etc. Et donc on voit que là, il y a des pistes qui seraient intéressantes à ouvrir et à traiter. Voilà à peu près l'idée. Donc j'espère que ça répond à ta question au moins en partie. Donc encore une fois, n'hésitez pas, enfin mettez vos coordonnées ou au moins un moyen qu'on puisse vous renvoyer l'information sur le pad, de façon à ce que une fois que les notes seront mises en forme, que l'audio sera extrait et publié, on puisse vous le renvoyer, parce que on ne sait pas forcément par quel biais chacun est arrivé ici. Et puis, n'hésitez pas aussi, vous avez des moyens de nous contacter, de contacter Remix, et donc n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse, à revenir aussi vers nous pour en parler. Ça peut se faire dans le pad, dans les derniers chapitres en bas du pad, mais ça peut se faire aussi en contact direct. Je suis persuadé que ce genre de sujet-là devrait et aura probablement des retombées dans les dynamiques sur lesquelles on travaille depuis plusieurs mois. Je pense à ce qui s'est préparé à Barcelone, je pense au Commons Camp qu'on a fait à Marseille et aux suites, puisqu'on envisageait d'en faire aussi. Enfin, il y avait des choses programmées en Italie et puis en Europe. Voilà, il y a des pistes là qui sont intéressantes à creuser. Et donc, voyons comment est-ce que ça peut se traduire en termes de documentation et d'outils qui servent les communs et les commoners sur le terrain. Voilà, si personne ne veut rajouter quelque chose maintenant, je vous propose qu'on s'arrête là.
Et merci.
On se donne merci à tous et qu'on se donne rendez-vous donc peut-être au prochain appel en commun, dont le sujet sera choisi quelques jours avant le troisième mardi du mois de mai. Et puis, d'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Merci à tous, à très bientôt.
Et bonne santé.
Merci.
Merci.
Salut.
Salut. Alors, comment on ferme ?
Au revoir. Au revoir. À la prochaine.
Salut, merci.
Ciao.
Ciao.
Comment on fait là pour quitter ?